ce matin, je veux continuer avec la tonalité du ressenti. De nouveau, comme une source pour nous aider vers l'éveil, pour une source pour nous aider vers la compassion. Alors ce matin, je veux parler plus de on en a déjà parlé pas mal dans la discussion, la tonalité ni l'un ni l'autre. Et parce que la tonalité ni l'un ni l'autre est en fait souvent associée à ce qu'on appelle équanimité. Alors, je veux vérifier d'abord, est-ce que tout le monde connaît ce mot équanimité ? Ça vous dit plus ou moins quelque chose ? Mais en fait, avant le Covid, j'ai réalisé que équanimité n'était pas un mot très utilisé en français. Et qu'en fait, on le trouve qu'une fois dans un grand philosophe français. Et dans une page, une fois, il parle d'équanimité, puis c'est tout. Et puis c'est fini. Parce que quand j'enseignais avant que le Covid arrive, j'étais associée avec des recherches pour enseigner la méditation à des seniors pour voir si ça leur faisait du bien, pour le bien vieillir. Et donc j'avais une séance sur l'équanimité et avant d'y aller, ce matin-là, j'étais avec des scientifiques, des gens qui ont des doctorats, mais qui ont fait des études très poussées. Et ils me disent, mais quel est le sujet aujourd'hui ? Je dis, l'équanimité. Et ils me disent, c'est quoi ça ? J'ai jamais entendu ce mot. Et donc c'est un peu, des fois, la difficulté pour traduire. Parce qu'en fait, le terme en pali, dans le langage ancien, c'est upeka. Mais je pense que si je dis UPK, la plupart des gens vont pas le comprendre aussi, c'est un peu difficile à écrire. UPPEKKHA, donc c'est un peu difficile à écrire. Et donc après, on s'était dit, mais comment on peut, quel mot on peut utiliser en français ? Et quand on regarde dans les textes anciens pali du temps du Bouddha, enfin, il ne les a pas écrits, il les a dit 500 ans après, ils ont été écrits. C'est souvent, il y a une connexion entre la tonalité ni l'un ni l'autre et le calme, la sérénité, l'équanimité. Et il faut vraiment faire une différence. Et de nouveau, il parle souvent, il y a la tonalité ni l'un ni l'autre, il y a l'équanimité qui est ordinaire. Et si c'est ordinaire, dans un sens, c'est une sorte d'indifférence, une sorte de, en français, on peut presque dire une placidité. Rien ne m'importe, surtout si c'est pas à moi que ça arrive. Donc, il dit dans le texte, je m'en fiche un peu, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui m'arrive, les autres, c'est leurs histoires. Donc, une sorte d'indifférence par rapport aux autres un petit peu, une sorte de placidité par rapport à ce qui se passe un petit peu. Mais, en fait, la sérénité, le calme, la paix, intérieur dont on parle, c'est en fait, ce n'est pas de l'indifférence. Et donc, il faut vraiment faire attention, je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'abord, de voir que par rapport aux tonalités, l'idée, c'est pas que tout revienne à ni l'un ni l'autre. Ça, il faut faire très attention à ça. On va pas faire tout plafonner au même truc, qu'il y aura toujours des tonalités agréables, désagréables, ni l'une ni l'autre. Mais la différence que la pratique va faire par rapport à l'éveil, c'est qu'il n'y aura pas, par rapport à agréable, cette soif, cette avidité qui va tout de suite, il y a les, ce que j'ai parlé hier, les tensions sous-jacentes, les, la réactivité sous-jacente, désagréable, va pas y avoir cette aversion qui va l'amplifier, et dans un sens, ni l'un ni l'autre est plus connecté avec ce qu'on appelle avidia. Alors ça peut être de l'ignorance, ça peut être de la confusion, ça peut être un peu d'être un peu dans le flou, d'être pas clair. Et donc, cette tonalité, ni l'une ni l'autre, quand elle est basée sur la compréhension, quand elle est basée sur la clarté, en fait, c'est pas quelque chose qui va nous faire éviter les choses, c'est pas quelque chose qui va nous faire nous séparer des choses. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens pensent que, par exemple, la sérénité, si on pratique assez, assidûment, un jour, je vais monter sur mon nuage de sérénité qui va flotter au-dessus de tout. Rien ne va m'atteindre. Moi, je vais être en paix sur mon petit nuage. Les autres, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut essayer de monter sur un nuage à toi. Hein? Moi, c'est le mien. Je ne partage pas. Et il faut faire attention à cette idée. Parce que l'idée du Bouddha, ce n'est pas d'être au-dessus des choses, mais c'est d'être avec les choses, mais différemment. Et donc, en termes de ni l'un ni l'autre, ça va être associé à l'équanimité, à la sérénité, mais dans une sorte de ce que j'appelais une sorte de base de repos. Je pense de voir ni l'un ni l'autre comme un moment de repos, un moment de calme, un moment de paix, mais ça ne veut pas dire qu'on évite les choses et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné par les choses. Je pense que c'est ça qui est très important de voir ça. Donc, dans cette sérénité, en même temps, il y a une clarté. C'est un peu une absence de confusion. Parce que souvent, il y a l'idée que si on ne comprend pas la tonalité ni l'un ni l'autre, on va être un peu confus, on ne va pas être vive. Donc, il y a vraiment une idée que même s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a de la clarté et en même temps, bien sûr, il y a de la bienveillance. Parce que je pense que c'est très important de voir que quand on parle de la tonalité, quand on parle de l'éveil, c'est toujours dans une matrice éthique. Parce que dans un sens, l'idée principale du Bouddha, c'est de ne pas causer de la souffrance. De ne pas causer de la souffrance à soi-même, de ne pas causer de la souffrance aux autres. Et donc, cette qualité de ni l'un ni l'autre, cette tonalité qui va apparaître quand soit rien ne se passe, ou soit quand cette qualité ni l'un ni l'autre va avoir une certaine qualité de calme, d'apaisement, de sérénité. Donc, de nouveau, vraiment j'appuie sur ça, c'est pas quelque chose qui va être au-dessus. Et donc, ce qui est intéressant dans équanimité, c'est pour ça que j'aime bien le garder, parce que ça, en fait, dans UPK, il y a ça, c'est que cette équanimité, cette sérénité, ce calme, va avoir en fait plusieurs caractères. Un des premiers caractères, ça va être la stabilité. Donc déjà hier, je parlais d'ancrage, je parlais de refuge, et donc de voir que la méditation, on pourrait presque dire, va nous faire apprécier, reconnaître la tonalité ni l'une ni l'autre, par ce côté de stabilité, qu'on se sent stable. Et alors là, la question est comment est-ce que je vais me sentir stable dans le corps, dans les pensées, dans le cœur, dans les relations. Et en fait, personnellement, je pense que c'est un cadeau que l'on peut faire aux autres, c'est la stabilité. C'est le fait que soi-même, on a une certaine sérénité, un certain apaisement, qui fait que c'est presque, c'est comme, on l'irradie presque. Et je sais que j'avais une amie, et donc de voir que vraiment les deux vont aussi, j'en parlais plus cet après-midi, vont très totalement avec la compassion. Et il y a quelques années, quand je vivais en Angleterre, il y avait une amie qui avait un gros souci. Son mari était très malade. Et je lui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment puis-je t'aider? Et elle me dit, va visiter ma mère, qui est dans une maison de retraite, qui n'est pas très content. Et donc, et en fait, sa mère était partie des Quakers, et c'est des gens qui sont des chrétiens un peu séculiers, on peut presque dire, et leur forme de méditation, c'est de se réunir ensemble et de s'asseoir en silence. Et donc, ils ont une grande pratique, en fait, de s'asseoir et d'être en silence. Et donc, cette dame très âgée était dans cette maison de retraite, et la maison de retraite était très grande. Et il y avait un brouhaha, il y avait de l'activité, ça bougeait, ça partait. C'était vraiment. Alors moi, de temps en temps, je la voyais dans l'endroit public. Si je la voyais dans sa chambre, c'était plus facile. Mais si je la voyais dans un endroit public, on était au milieu d'un truc. Et quand mon amie demandait à sa mère comment ça se passe quand Martine vient te voir, et sa mère disait « Ah !» Elle est tellement calme et apaisante, ça me fait du bien. Et juste le fait que je ne sois pas gagnée par l'agitation qui était autour de nous, le fait que je puisse être juste assis avec elle, tranquillement, d'une façon apaisée, en fait, ça l'a connectée avec... les séances de silence qu'ils faisaient tous les dimanches avant, quand elle allait encore au groupe des Quakers. Et donc, en fait, sans rien faire, je faisais quelque chose. Et c'est ça qui est aussi intéressant par rapport à l'équanimité, par rapport à ni l'un ni l'autre. Et c'est quelque chose que j'aimerais que vous exploriez un petit peu aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle... le calme dans le mouvement et le mouvement dans le calme. En anglais, ça sonne un petit peu mieux, mais je n'ai pas trouvé le... Parce qu'en anglais, c'est « stillness in movement and movement in stillness ». Et donc, cette idée que même si on est stable, on est là comme ça, on n'est pas une statue de pierre, on est vivant. Il peut y avoir du mouvement dans ce calme, de la même manière que quand vous marchez dehors, quand vous marchez, quand vous êtes en mouvement, il peut y avoir cette stabilité. Il peut y avoir ce calme en soi-même. Et moi, je pense que c'est un des dons les plus faciles et les meilleurs qu'on puisse apporter aux autres. Cette faculté de pouvoir être stable, de pouvoir être calme. Après, il y a un autre aspect de UPK, équanimité, sérénité. C'est en fait, et aussi je le connecterai avec cette idée de niveau de base de ni l'un ni l'autre, c'est qu'en fait, UPK, ça veut aussi dire équilibre. Ça veut aussi dire balance. En français, on dit balance. Quand on mesure les poids, c'est une balance. Okay. Donc, nous avons une vieille balance, parce que de nos jours, c'est tout électronique. Mais si vous avez une vieille balance, ce qui est intéressant, c'est que vous essayez, vous mettez quelque chose d'un côté, vous mettez le poids de l'autre, ça va de ce côté ou ça va de celui-là. Mais l'intérêt de la balance, pour mesurer quelque chose, c'est qu'elle revienne au milieu. Et donc dans UPK, il y a cette idée qu'on ne va pas être immovible, on ne va pas rester au milieu quoi qu'il arrive, mais on va aller d'un côté, on va aller de l'autre, mais l'intérêt, c'est qu'on peut revenir au milieu. Et c'est ça qui est important. Parce que des fois, si on est submergé, pas que ce soit le ressenti agréable ou désagréable, si on est submergé, on ne peut presque pas revenir au milieu. Surtout avec le désagréable, avec ce qui est douloureux, si on est submergé, on a l'impression qu'on ne peut pas revenir à ce qui est au milieu. Et donc, ce qu'on va essayer de cultiver, c'est qu'on va avoir ce mouvement d'un côté comme de l'autre, agréable, désagréable, mais on va pouvoir revenir au milieu. Et une fois, j'enseignais il y a très longtemps en Italie au sujet des tonalités, et je parlais des plus 5, comme j'ai parlé hier, plaisant plus 5, déplaisant moins 1. Et puis tout à coup, il y a cette dame qui dit, mais alors, si je suis en dépression à moins 5, j'ai pas besoin de revenir à plus 5. J'ai juste à revenir au milieu. J'ai juste à revenir en équilibre. Parce que souvent, on a l'impression que si on est moins 5, il faut revenir à ce qui nous apparaît comme vraiment agréable, plus 5. Mais non. On peut déjà revenir à l'équilibre du ni l'un ni l'autre. Et donc, de voir aussi que dans cette équanimité, dans cette tonalité de ni l'un ni l'autre, il y a un peu cet équilibre vers lequel on peut revenir. Et donc on peut être excité par quelque chose et puis revenir à l'équilibre. On peut être un peu envahi par ce qui est douloureux, mais on peut revenir à l'équilibre. Et donc vraiment de voir, moi je trouve que c'est une qualité très belle, le fait qu'on puisse revenir à l'équilibre. Après, il y a un autre aspect d'équanimité que moi je trouve très intéressant, mais là vraiment c'est un défi en fait, c'est de traiter toute chose également, à l'identique. Mais nous en fait, je dirais presque, on est des organismes à différencier. Et une chose dont je n'ai pas parlé hier, c'est que les gens qui ne sont pas bouddhistes, mais qui comprennent totalement les tonalités, c'est les gens qui font de la pub et c'est les réseaux sociaux. J'aime, j'aime pas. Ah là, ils le comprennent totalement. Et la pub, ils comprennent totalement comment en fait amplifier. Souvent, je cherche quelque chose dans le supermarché, il vous présente ça, ah, ça a l'air fantastique, on l'achète, on le sort, c'est un tout petit truc. Donc, c'est vraiment cet aspect, dans un sens d'amplifier, de magnifier, et de tout de suite, de différencier. Malheureusement, j'aime, j'aime pas. Bien sûr, on a besoin de cette capacité de j'aime, j'aime pas, bien sûr. Qu'est-ce qui va être bien pour nous, qu'est-ce qui va pas être bien pour nous. Mais je pense qu'il y a aussi, on verra si vous voulez en discuter, la différence entre un besoin et un désir ou une envie. La différence entre un jugement éclairé et un jugement impulsif. Par rapport à la tonalité, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on marche sur le trottoir, on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, Et presque immédiatement, on décide, j'aime cette personne ou j'aime pas cette personne. Cette personne m'intéresse ou cette personne ne m'intéresse pas. Et déjà, on le fait comme ça. Parce que la façon dont ils marchent, la façon, les habits qu'ils ont, la coiffure ou le sac ou quoi que ce soit, ce qu'on regarde, les chaussures. Hier, il y avait un monsieur qui avait des chaussures. J'étais baba. Elles étaient incroyables. On aurait dit des bateaux. C'était incroyable. Anyway, j'étais en surprise. J'étais en étonnement. Et donc, on est dans un sens, il y a toujours une possibilité des contacts qui vont nous faire réagir. Mais combien on a besoin de réagir sur tout ? C'est ça que je trouve qui est un peu insidieux avec les réseaux sociaux, c'est qu'il faut... Il faut dire surtout, j'aime pas, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit quoi, il faut mettre I like. Moi, pour que je mette like, il faut vraiment que je me dise, ah, il faut que je soutienne cette personne. Alors, je vais les soutenir avec mon like. Mais autrement, ça serait presque sans arrêt. Et c'est très fatigant. Et dans un sens, la tonalité, ni l'un ni l'autre, Ça nous dit, ben, j'ai pas besoin de immédiatement identifier, qualifier, quand c'est nécessaire, oui, bien sûr, mais j'ai pas besoin d'être dans un état qui différencie tout le temps. Et dans un sens, c'est de nouveau, ah, quand c'est utile, je le fais. Quand c'est pas utile, j'ai pas besoin de le faire. Et donc, ici, il y a un peu le défi de traiter également. Alors, bien sûr, c'est avec la sagesse, dans le sens que on va pas traiter également si quelqu'un est en train de taper quelqu'un. Non, 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 on va faire quelque chose. On va pas se dire, ah, il tape quelqu'un. C'est comme ça. Non. Mais donc, si on a ce prisme éthique, où il y a la bienveillance, où il y a, on ne cause pas de la douleur intentionnellement aux gens, donc dans ce prisme-là, ça peut être intéressant, parce que la société, tout le temps, nous demande presque d'aimer quelque chose, et puis des fois, en fait, on nous demande de rejeter quelque chose, surtout sur les réseaux sociaux, là, il faut... On y va, c'est pour ça que moi, bon, un de mes buts avec les réseaux sociaux, c'est de ne jamais devenir viral. Donc j'essaie de rester dans vraiment ni l'un ni l'autre quand je mets quoi que ce soit. Et donc, de traiter également, mais c'est aussi personnel. C'est comme une exploration. C'est pas, je vous dis pas, traiter également tout, quoi que ce soit, indifféremment, 150%, je ne dis pas ça. Je dis comme un exercice. Est-ce que ça pourrait être intéressant, en fait, de laisser passer les choses et de ne pas décider, j'aime ça, je veux pas ça, juste, on a une pensée, c'est une pensée. Est-ce que ça doit être ma pensée ? Est-ce que c'est pas ce que j'ai ma pensée, il faut que je la continue ? Parce que ce qui est intéressant avec cette... Si on se focalise, comme hier je disais, on s'agrippe, c'est que généralement on va se dire, c'est ma pensée, c'est mon goût, c'est une bonne pensée, c'est un bon goût, tout le monde doit avoir la même pensée. Et il ne faut pas penser autre chose. Parce que le truc avec la tonalité, comme j'ai déjà dit, c'est pas dans l'objet même. Mais on peut se voir, nous-mêmes, dire à quelqu'un, « Ah, ça c'est chouette, tu dois l'aimer. » Et la personne vous dit, « Ah, moi je ne l'aime pas du tout. » Et on se dit, mais quel est le problème avec cette personne? C'est ça qui est intéressant. Dans les limites éthiques, bien sûr. Moi, j'aime la mangue. Et je pense que la mangue est bonne en elle-même. Mais vous rencontrez quelqu'un qui n'aime pas la mangue, et je lui dis, t'en as pas eu une bonne. Je lui fais manger la mangue, et elle trouve toujours que c'est pas bon. Ou j'ai une amie qui, il ne faut pas lui donner du café. Mais jamais. Donc même dans les chocolats, il ne faut pas qu'il y ait du café. Donc tous les Noëls, je lui achète du chocolat parce qu'elle les adore, mais il faut que je fasse attention qu'il n'y ait aucun qui puisse avoir une goutte de café. C'est intéressant ça, parce que généralement les gens ont le café, pourquoi pas. Et donc, on se dit, et donc on va presque juger les gens parce qu'ils ont des goûts différents des nôtres. Et donc c'est un peu ça, cette exploration de traiter les choses également. Alors pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est intéressant. Surtout, enfin moi, quand je vais en retraite, que j'enseigne en retraite, et puis on nous sert des choses, et ben voilà, on y va. Et puis on le mange, hein. C'est comme ça. Et c'est toujours intéressant, dans le sens d'être en retraite, parce qu'on a souvent la nourriture qui... c'est pas ce qu'on aimerait manger, c'est pas ce qu'on mange tous les jours. Mais again, c'est pour nous nourrir. Généralement, c'est très healthy, c'est très bon pour la santé, c'est végétalien et tout. Et comment on est avec ça? Est-ce qu'on peut traiter également les pensées, les ressentis, quand vous marchez dehors, ce que vous voyez? Et aussi en termes de statut, de traiter les gens également. Ça, c'est ça. Alors maintenant, j'enseigne depuis très longtemps, et maintenant les gens ont l'opposé du début, c'est que comme ils pensent que j'ai enseigné tellement longtemps, que je suis relativement connue, je dois être populaire. Ça, c'est pas vrai, c'est pas garanti, hein. Donc là, vous avez l'opposé. Mais au début, quand j'étais pas connue, si j'allais dans des assemblées de bouddhistes ou de gens, comme ils nous connaissaient pas, ils nous parlaient pas, dans un sens, parce qu'on n'était pas important, on n'était pas l'enseignant qui était super connu. Une fois, on a eu ça avec Ramdas. On est dans une, il y avait une rencontre, puis il y avait Ramdas. Alors tout le monde était agglutiné autour de Ramdas. Personne ne nous parlait. C'était il y a très très longtemps. Puis tout à coup, Ramdas qui nous parle. Et les gens qui se disent, mais si lui leur parle, peut-être qu'ils sont intéressants. Alors c'était intéressant de voir la qualité qui bougeait à cause de quelqu'un. Et j'ai eu plusieurs fois ces expériences, mais en fait de statut. Et vraiment, moi je trouve qu'il faut faire très attention à ça. Que quelqu'un soit plus important ou moins important. Et c'est pour ça que je trouvais que le Covid, j'avais l'espoir que le Covid nous ferait traiter les gens plus également. Ceux qu'on pense qu'ils ne sont pas importants, qu'en fait, ils sont vitaux. Moi, j'ai un grand espoir que ça a duré pas longtemps. J'ai été très déçue. Parce que j'ai trouvé que c'était beau de finalement de reconnaître... parce que moi, quand j'étais plus jeune et que j'avais pas de sous, j'étais une femme de ménage. Pendant beaucoup d'années, à 15 ans, j'ai été femme de ménage. Et je me suis toujours dit, on devrait payer plus les femmes de ménage ou les hommes de ménage. Parce qu'ils font quelque chose qui est vital. Mais on ne leur paye pas grand-chose. Et donc, est-ce qu'on peut traiter les gens également ? Comme des êtres humains qui ont une histoire, qui sont importants. Pour moi, ça c'est vraiment essentiel par rapport à l'équanimité. Je trouve que c'est quelque chose de très beau. Après, Il y a une autre qualité par rapport à ni l'un ni l'autre, par rapport à l'équanimité, la sérénité. Et on en a déjà parlé un petit peu. C'est ce que j'appellerais accueillir, accepter. Et je pense qu'il y a cette notion avec l'équanimité qu'on accepte ce qui surgit. Il y a ce mot qu'on entend souvent, soit avec les choses comme elles sont. Mais en fait, c'est pas ça que ça veut dire. C'est un truc pali, yatam, bhutam, nyanya, dasana. Et en fait, ça veut dire vois et connais les choses comme elles apparaissent. Et donc, quand je parle d'accueil, quand je parle d'accepter, c'est pas accepter pour se résigner, mais c'est accepter pour voir. Pour voir vraiment ce qui se passe. Parce que souvent, si on s'agrippe, on va avoir une notion très restreinte, une vision très restreinte de ce qui se passe. Et donc, cette acceptation, cet accueil, c'est dans le sens, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Et comment je peux être avec ça? Donc, dans l'équanimité, il y a vraiment cette notion qu'on est présent à ce qui se passe, mais pas parce que le présent est sacré, mais parce que c'est le seul endroit où on peut faire quelque chose. Dans le passé, on peut apprendre du passé, mais le passé est passé. Le futur n'est pas encore là, on peut se préparer pour le futur, mais on peut être tellement surprise par le futur. Des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, et tout à coup elles se passent, en bien comme en mal. Et donc dans le sens, pour pouvoir avoir ce que j'appellerais un accueil créatif, il faut être vraiment présent à la complexité de ce qui se passe. Et pour moi, en partie, cette équanimité, c'est pas de ne pas voir ce qui se passe, c'est au contraire d'être vraiment présent à ce qui se passe, mais sans être submergé, sans s'agripper, sans rejeter, de façon à ce qu'on peut être clair. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quel est le contact? Quelle est la perception? Quelle est la tonalité? Quelle est l'intention? Où est-ce que je me focalise? Et donc, il y a de nouveau cette ouverture qui nous permet de voir ce qui se passe et de pouvoir avoir ce que j'appellerais un accueil créatif qui est, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je dois faire quelque chose? Ou est-ce que j'attends? Parce qu'il n'y a rien à faire. Ici et maintenant, ça ne veut pas dire que plus tard, on ne pourra rien faire. Mais peut-être qu'ici et maintenant, il faut juste être là. Mais être là d'une façon stable, d'une façon équilibrée.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.